Partie 1. Compréhension orale. Cette partie du test comprend trois sous-parties. Vous allez écouter trois enregistrements. Vous écouterez chaque enregistrement deux fois. Pendant l'écoute, répondez aux questions sur la feuille qui correspond. Suivez les instructions pour savoir quelle feuille vous devez remplir. Maintenant, vous prenez la feuille marquée d'une petite croix. Première sous-partie. La Terre vue du ciel. Écoutez l'interview avec Yann Arthus-Bertrand, photoreporter et écologiste qui nous montre le monde comme nous ne l'avons jamais vu. Pour les questions suivantes, de 1 à 7, choisissez la bonne réponse A, B, C ou D. À chaque fois, une seule réponse est correcte. Indiquez vos réponses sur la feuille marquée d'une petite croix. Maintenant, vous avez 2 minutes pour lire les questions de 1 à 7. Maintenant, écoutez le premier enregistrement. La Terre vue du ciel. Ceux qui suivent la chaîne TV5 Monde connaissent ces photos originales de notre Terre. Yann Arthus-Bertrand. Sa notoriété l'a fait entrer dans le Larousse 2009. Il a accepté de donner cette interview à une journaliste amie.
Yann Arthus-Bertrand, bonjour. Alors, tu as été élu en 2005 à l'Académie des Beaux-Arts. Que signifie pour toi ce succès ?
Cette reconnaissance me permet surtout de me rendre utile. Dès mon arrivée, j'ai tenu à créer un prix de l'Académie des Beaux-Arts, spécialement consacré à la photographie. Mon idée était d'aider financièrement des jeunes photographes à réaliser leurs projets. J'ai fait appel à la solidarité des photographes renommés et l'année suivante, nous avons pu répartir 150 000 euros. J'aimerais aussi faire entrer la photographie comme matière d'enseignement à l'école.
Mais est-ce si nécessaire ?
Ça me paraît indispensable. Les artistes du monde entier s'expriment aujourd'hui plutôt par la photographie que par la peinture. Or, si la peinture est présente à l'école, les enfants sont à peine sensibilisés à l'histoire et aux techniques photographiques. Apprendre à photographier, c'est un peu comme apprendre à écrire. Avec un minimum d'éducation, on peut exprimer beaucoup de choses par l'image.
Et toi-même, tu évoques souvent ton engagement de photographe.
J'essaie de mobiliser non seulement mes compétences de photographe et de cinéaste, mais aussi mon argent pour transmettre mes idées sur la protection de l'environnement et de la biodiversité. À mon avis, ce sont deux enjeux fondamentaux pour l'avenir de l'humanité.
Et comment est née la photo aérienne ?
En 1976, j'étais parti avec ma femme au Kenya. dans un parc national, pour des raisons scientifiques. Un ami nous avait proposé des visites du parc en ballon. D'en haut, j'ai pris mes premières photos aériennes qui offraient un regard unique de la Terre. J'en suis immédiatement tombé amoureux, et cet amour dure toujours. J'ai compris que je pouvais exprimer mes idées sur la nature sans écrire, en mobilisant tout simplement la force de mon regard.
Maintenant, écoutez le premier enregistrement encore une fois. La Terre vue du ciel. Ceux qui suivent la chaîne TV5 Monde connaissent ces photos originales de notre Terre. Yann Arthus Bertrand. Sa notoriété l'a fait entrer dans le Larousse 2009. Il a accepté de donner cette interview à une journaliste amie.
Yann Arthus Bertrand, bonjour. Alors, tu as été élu en 2005 à l'Académie des Beaux-Arts. Que signifie pour toi ce succès ?
Cette reconnaissance me permet surtout de me rendre utile. Dès mon arrivée, j'ai tenu à créer un prix de l'Académie des Beaux-Arts, spécialement consacré à la photographie. Mon idée était d'aider financièrement des jeunes photographes à réaliser leurs projets. J'ai fait appel à la solidarité des photographes renommés et l'année suivante, nous avons pu répartir 150 000 euros. J'aimerais aussi faire entrer la photographie comme matière d'enseignement à l'école.
Mais est-ce si nécessaire ?
Ça me paraît indispensable. Les artistes du monde entier s'expriment aujourd'hui plutôt par la photographie que par la peinture. Or, si la peinture est présente à l'école, les enfants sont à peine sensibilisés à l'histoire et aux techniques photographiques. Apprendre à photographier, c'est un peu comme apprendre à écrire. Avec un minimum d'éducation, on peut exprimer beaucoup de choses par l'image.
Et toi-même, tu évoques souvent ton engagement de photographe.
J'essaie de mobiliser non seulement mes compétences de photographe et de cinéaste, mais aussi mon argent pour transmettre mes idées sur la protection de l'environnement et de la biodiversité. À mon avis, ce sont deux enjeux fondamentaux pour l'avenir de l'humanité.
Et comment est née la photo aérienne ?
En 1976, j'étais parti avec ma femme au Kenya, dans un parc national, pour des raisons scientifiques. Un ami nous avait proposé des visites du parc en ballon. D'en haut, j'ai pris mes premières photos aériennes qui offraient un regard unique de la Terre. J'en suis immédiatement tombé amoureux, et cet amour dure toujours. J'ai compris que je pouvais exprimer mes idées sur la nature sans écrire, en mobilisant tout simplement la force de mon regard.
Maintenant, vous avez 30 secondes pour terminer votre exercice. Deuxième sous-partie. Son travail, ses projets. Écoutez l'interview avec Christophe Pillet, designer, dont on parle beaucoup cette année. Pour les phrases de 8 à 13, dites si c'est vrai A, faux B, ou bien ce n'est pas dit dans le texte C. Indiquez vos réponses sur la feuille marquée d'une petite croix. Maintenant, vous avez 2 minutes pour lire les phrases de 8 à 13. Maintenant, écoutez le deuxième enregistrement. Son travail, ses projets. Christophe Pillet a été élu créateur de l'année à 25 ans. Récemment, il a remporté le Grand Prix de la salle de bain d'hôtel 2008. Loin d'être séduit par la célébrité, l'homme reste simple et discret en ce qui concerne son travail, comme en témoigne cette interview.
Votre travail, depuis vos débuts, ne cesse d'être couronné de succès. Quelle est la prochaine étape ?
Vous allez être déçu. Je n'ai jamais planifié de remporter tel ou tel titre. Je ne cherche pas la reconnaissance. Je me définis plutôt comme un aventurier, un curieux, quelqu'un qui va au-delà des apparences. Je suis un touche-à-tout, dans le bon sens du terme. Je ne veux pas me limiter à un seul domaine. Je m'intéresse également à l'architecture et à la scénographie. Et je veux être riche de rencontres.
Et combien de rencontres importantes avez-vous déjà faites durant votre carrière ?
Énormément. Je pense notamment à la styliste Catherine Malandrino, avec qui j'ai réalisé un travail à quatre mains sur ses boutiques. Avec elle, la réflexion est naturelle, intuitive. On sait tout de suite où on va, sans se poser de questions. J'ai également mes guides spirituels, même si la plupart sont déjà morts. Je pense à l'architecte italien Andrea Branzi, qui était aussi l'un de mes professeurs.
C'est un peu grâce à lui que vous avez développé ce style sobre, sans être hostile.
En réalité, je ne cherche pas à avoir un style. La création signée Christophe Pillet n'existe pas. Et ce serait mentir de dire le contraire. Peut-être que, quand j'aurai 70 ans, avec le recul, oui, là, on pourra définir mon style. De manière générale, j'aime les choses simples, élégantes. Celles qui parlent à tout le monde. Je refuse le superflu et j'opte pour l'élégance. Je déteste les choses qui frappent aux yeux. Par exemple, les couleurs criardes.
Des projets pour cette année ?
Des tas. En avril prochain, 3 nouvelles boutiques pour Catherine Malandrino, dont 2 à Los Angeles et 1 à Las Vegas. On a déjà préparé tout l'aménagement. Au programme également, un hôtel en Inde et un autre à Saint-Tropez.
Maintenant, écoutez le deuxième enregistrement encore une fois. Son travail, ses projets. Christophe Pillet a été élu créateur de l'année à 25 ans. Récemment, il a remporté le Grand Prix de la salle de bain d'hôtel 2008. Loin d'être séduit par la célébrité, l'homme reste simple et discret en ce qui concerne son travail, comme en témoigne cette interview.
Votre travail, depuis vos débuts, ne cesse d'être couronné de succès. Quelle est la prochaine étape ?
Vous allez être déçu. Je n'ai jamais planifié de remporter tel ou tel titre. Je ne cherche pas la reconnaissance. Je me définis plutôt comme un aventurier, un curieux, quelqu'un qui va au-delà des apparences. Je suis un touche-à-tout, dans le bon sens du terme. Je ne veux pas me limiter à un seul domaine. Je m'intéresse également à l'architecture et à la scénographie. Et je veux être riche de rencontres.
Et combien de rencontres importantes avez-vous déjà faites durant votre carrière ?
Énormément. Je pense notamment à la styliste Catherine Malandrino, avec qui j'ai réalisé un travail à quatre mains sur ses boutiques. Avec elle, la réflexion est naturelle, intuitive. On sait tout de suite où on va, sans se poser de questions. J'ai également mes guides spirituels, même si la plupart sont déjà morts. Je pense à l'architecte italien Andrea Branzi, qui était aussi l'un de mes professeurs.
C'est un peu grâce à lui que vous avez développé ce style sobre, sans être hostile.
En réalité, je ne cherche pas à avoir un style. La création signée Christophe Pillet n'existe pas. Et ce serait mentir de dire le contraire. Peut-être que, quand j'aurai 70 ans, avec le recul, oui, là, on pourra définir mon style. De manière générale, j'aime les choses simples, élégantes. Celles qui parlent à tout le monde. Je refuse le superflu et j'opte pour l'élégance. Je déteste les choses qui frappent aux yeux, par exemple les couleurs criardes.
Des projets pour cette année ?
Des tas. En avril prochain, 3 nouvelles boutiques pour Catherine Malandrino, dont 2 à Los Angeles et 1 à Las Vegas. On a déjà préparé tout l'aménagement. Au programme également, un hôtel en Inde et un autre à Saint-Tropez.
Maintenant, vous avez 30 secondes pour terminer votre exercice. Troisième sous-partie. Nouvelle génération de passeports. Écoutez le reportage concernant les passeports de nouvelle génération. Pour les espaces de 14 à 20, complétez le texte qui résume l'histoire. À chaque fois, vous devez utiliser un seul mot pour compléter le résumé. Indiquez vos réponses sur la feuille marquée d'un stylo. Maintenant, vous avez 2 minutes pour lire le texte. Maintenant, écoutez le troisième enregistrement. Premier passeport biométrique délivré en France. Dans le bureau de l'état civil, Bruno fait sa demande de passeport. Une employée lui explique tout ce qu'il faut faire et Bruno l'écoute attentivement. Voici une de ses consignes.
Nous allons passer à l'étape des empreintes digitales. Je vous propose, hormis le pouce, d'apposer vos 4 doigts. On va y aller. Empreinte gauche validée, nous pouvons passer à la main droite.
À la sortie du bureau, il dit à son copain qu'il attend.
C'est facile, c'est simple. J'ai juste à poser mes doigts sur la machine, donc il n'y a rien de compliqué. C'est une petite boîte avec une vitre, comme une photocopieuse. On pose ses doigts dessus et ça prend des empreintes.
C'est la nouveauté. En plus d'une photo, il faut donner ses empreintes digitales. Ces informations sont numérisées, chiffré et stocké dans une base de données. Selon le ministre de l'Intérieur, cette technologie va permettre de mieux lutter contre les falsifications d'identité. On introduit dans la puce de ce nouveau passeport des éléments photographiques et des éléments d'empreinte. ces nouveaux passeports permettent aux services de police, de gendarmerie et de douane de s'assurer que la personne qui a le document est bien son possesseur. Depuis les attentats du 11 septembre 2001 à New York, de nombreux pays utilisent la biométrie pour les contrôles d'identité. Plutôt que l'iris de l'œil ou la reconnaissance du visage, l'Europe a choisi les empreintes digitales pour les passeports de nouvelle génération. À propos des passeports biométriques, l'employé a dit à Bruno :
cela va simplifier les passages en douane. Grâce à l'empreinte digitale, on va pouvoir contrôler, systématiquement, que celui qui passe une frontière est bien le possesseur du passeport qu'il présente. Il suffit de vérifier que ces empreintes digitales correspondent à celles du passeport.
Le passeport biométrique ne pourra pas être contrôlé à l'insu de son propriétaire. Quant à la base de données, contenant les photos et les empreintes, le ministère de l'Intérieur de France affirme qu'elle est placée sous haute protection informatique et que son accès est strictement surveillé. Maintenant, écoutez le troisième enregistrement encore une fois. Premier passeport biométrique délivré en France. Dans le bureau de l'état civil, Bruno fait sa demande de passeport. Une employée lui explique tout ce qu'il faut faire et Bruno l'écoute attentivement. Voici une de ses consignes.
Nous allons passer à l'étape des empreintes digitales. Je vous propose, hormis le pouce, d'apposer vos quatre doigts. On va y aller. Empreinte gauche validée, nous pouvons passer à la main droite.
À la sortie du bureau, il dit à son copain qu'il attend.
C'est facile, c'est simple. J'ai juste à poser mes doigts sur la machine, donc il n'y a rien de compliqué. C'est une petite boîte avec une vitre, comme une photocopieuse. On pose ses doigts dessus et ça prend des empreintes.
C'est la nouveauté. En plus d'une photo, il faut donner ses empreintes digitales. Ces informations sont numérisées, chiffrées et stockées dans une base de données. Selon le ministre de l'Intérieur, cette technologie va permettre de mieux lutter contre les falsifications d'identité. On introduit dans la puce de ce nouveau passeport des éléments photographiques et des éléments d'empreintes. Ces nouveaux passeports permettent aux services de police, de gendarmerie et de douane de s'assurer que la personne qui a le document est bien son possesseur. Depuis les attentats du 11 septembre 2001 à New York, de nombreux pays utilisent la biométrie pour les contrôles d'identité. Plutôt que l'iris de l'œil ou la reconnaissance du visage, l'Europe a choisi les empreintes digitales pour les passeports de nouvelle génération. À propos des passeports biométriques, l'employé a dit à Bruno :
cela va simplifier les passages en douane. Grâce à l'empreinte digitale, on va pouvoir contrôler, systématiquement, que celui qui passe une frontière est bien le possesseur du passeport qu'il présente. Il suffit de vérifier que ces empreintes digitales correspondent à celles du passeport.
Le passeport biométrique ne pourra pas être contrôlé à l'insu de son propriétaire. Quant à la base de données, contenant les photos et les empreintes, le ministère de l'Intérieur de France affirme qu'elle est placée sous haute protection informatique et que son accès est strictement surveillé. Maintenant, vous avez 30 secondes pour terminer votre exercice. Terminez le travail sur cette partie du test. Le test continue.